RFI, il est 12h, midi, ici à Paris, 13h dans la ville de Goma.
Grégoire Morelli.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en urgence pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs jours, la zone connaît une intensification des combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. À suivre également dans cette édition, le Liban, où des affrontements ont eu lieu dans le sud du pays avec Israël, en cause l'annonce de l'État hébreu de reporter le retrait de ses troupes dans la zone alors que l'accès à certaines localités est toujours interdit. Une interdiction que les habitants ont bravée en se dirigeant vers leur village sous le feu de soldats israéliens. Un mot de basket pour terminer, nous serons sur les parquets de la NBA délocalisés à Paris. Victor Missistrano a assisté au dernier match entre les Indiana Pacers qui ont pris leur revanche sur les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. En République démocratique du Congo, donc ce dimanche, dans les environs de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23 soutenu par le Rwanda se poursuivent donc ces derniers jours. 13 militaires déployés au sein des forces internationales ont été tués dans des affrontements. Hier, la RDC a annoncé le rappel de ses diplomates présents au Rwanda. Nous sommes en ligne avec Paulina Zidi à Kinshasa pour RFI. Et Paulina, une réunion d'urgence donc du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce lundi a été avancée à aujourd'hui.
Oui, il y sera bien sûr question de la situation à Goma. On ne laissera pas le M23 entrer à Goma, a déclaré lors d'un point presse samedi soir le porte-parole des forces armées congolaises. Le général Sylvain Ekenge assure que l'armée est déterminée à repousser l'ennemi. C'est donc maintenant que la guerre commence, a-t-il répondu face à l'ultimatum de 48 heures donné samedi par le M23 au FARDC. Les affrontements ont repris plus tôt ce matin sur le front nord. On signale des détonations entendues vers Kibati, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, avec des mouvements de population dans les camps déplacés présents dans le secteur, des mouvements vers le centre-ville. Sur le plan diplomatique, les autorités congolaises ont annoncé hier soir le rappel de leurs diplomates en poste à Kigali et la fermeture des activités diplomatiques et consulaires du Rwanda en RDC. C'est donc un pas de plus vers la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, et vous le disiez, la ministre congolaise des Affaires étrangères est à New York, où il doit se tenir dès 16h, heure de Kinshasa, 15h, temps universel, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations, rappelle Thérèse Wagner, qui réclame une nouvelle fois des sanctions.
Merci à vous, Paulina Zidi, à Kinshasa pour RFI. Au Soudan maintenant, l'attaque hier contre le principal hôpital d'El Fasher a fait 70 morts. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé aujourd'hui. L'hôpital saoudien est en plus le seul hôpital fonctionnel de cette ville assiégée dans l'ouest du pays. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué l'attaque de cet hôpital comme étant une violation du droit international humanitaire. Le ministère des Affaires étrangères saoudien qui appelle également à la protection des travailleurs médicaux et humanitaires. Après l'annonce par les autorités israéliennes du report du retrait de l'armée du Sud-Liban, censé s'achever ce soir selon l'accord de cessez-le-feu, la situation a dégénéré ce matin dans la partie méridionale occupée. Des habitants, je vous le disais, ont bravé les interdits israéliens et se sont dirigés vers leur village sous le feu des soldats israéliens. Paul Ralifet, un bilan provisoire fait état de 3 morts et 31 blessés civils.
À pied ou en voiture, des femmes et des hommes non armés ont forcé les checkpoints de l'armée libanaise et sont entrés dans leur village qu'ils n'avaient plus vu depuis près de 16 mois. Les Israéliens avaient interdit l'accès à 60 localités et érigé des remblais de terre pour couper les routes. Les habitants qui brandissaient des drapeaux libanais et du Hezbollah ou des portraits de Hassan Nasrallah se sont retrouvés nez à nez avec des militaires israéliens qui ont ouvert le feu pour tenter de les éloigner. Les soldats hébreux ont utilisé des armes automatiques et des obus de tanks pour enrayer ce mouvement de retour inattendu. Dans le secteur central de la frontière, un drone a largué 2 bombes près d'un rassemblement d'habitants. Les autorités libanaises semblent débordées par les événements. Dans une déclaration postée sur le réseau X, le président de la République, Joseph Aoun, a déclaré partager avec le peuple dans le sud la joie de la victoire et a appelé à la retenue et à la confiance dans les forces armées. Le chef de l'État a affirmé que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne sont pas négociables. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et sachez que l'armée libanaise a annoncé la mort d'un de ses soldats par des tirs israéliens dans le sud du Liban, montant ainsi le bilan provisoire toujours à 4 morts. Dans la bande de Gaza à présent, les secours disent que des dizaines de milliers de déplacés sont empêchés par Israël de retourner dans le nord de l'enclave, alors que le président américain Donald Trump a lui évoqué hier l'idée d'un plan visant, je cite, à faire le ménage dans la bande de Gaza. Donald Trump disant vouloir envoyer les Palestiniens de ce territoire vers l'Égypte ou la Jordanie temporairement ou à long terme pour obtenir la paix. Un plan qu'a salué le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich. À l'inverse, le djihad islamique, une autre formation palestinienne, évoque une idée qui pourrait encourager les crimes de guerre. De Donald Trump, il en est aussi question en Belgique, avec cette polémique médiatique. Lundi dernier, la RTBF, la radio-télévision publique francophone, a décidé de diffuser le discours d'investiture du président américain avec un différé de 2 minutes. La chaîne publique a en effet appliqué une particularité de la Belgique francophone, à savoir la possibilité d'établir un cordon sanitaire médiatique. Les médias refusent en effet de recevoir ou de diffuser en direct des partis ou des discours jugés antidémocratiques. Alors concrètement, de quoi s'agit-il et que permet cette diffusion en différé? Précision avec Jean-Jacques Herry.
2 minutes de différé pour prendre le temps de l'analyse et du décryptage, c'est justifié à l'antenne la direction de la RTBF, rappelant les propos racistes d'extrême droite et xénophobes prononcés par Donald Trump dans le passé. Autant de raisons, selon la chaîne publique, d'appliquer le cordon sanitaire médiatique, une spécificité de la Belgique francophone que détaille François Debras, politologue à l'Université de Liège.
Le cordon sanitaire médiatique empêche les partis politiques non démocratique d'avoir un temps de parole libre et en direct à la radio ou à la télévision. On peut les interviewer, mais en différé, et on peut également cadrer leurs propos.
Voir un cordon médiatique généralement utilisé contre l'extrême droite s'appliquer à Donald Trump a ulcéré le chef de file de la droite francophone, le président du mouvement réformateur Georges-Louis Boucher, qui a qualifié la RTBF de ministère de la censure et de la propagande, alors que dans le même temps, d'autres médias francophones diffusaient le discours en direct. Muriel Anneau, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique belge, rappelle que le choix est propre à chaque média.
C'est une question de responsabilité des journalistes, mais qui n'est pas un acte de censure, puisque le droit à l'information du public reste garanti.
Face à une polémique médiatique devenue politique, la Société des journalistes de la RTBF a insisté dans un communiqué à la fois sur son indépendance éditoriale et sur le fondement légal du cordon sanitaire médiatique, encadré par plusieurs décrets gouvernementaux et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Les Biélorusses appelaient aux urnes ce dimanche pour élire leur président, Alexandre Loukachenko, au pouvoir dans le pays depuis 30 ans, devrait être reconduit pour un 7e mandat consécutif à la tête de cet État allié de la Russie. Il n'a d'ailleurs, Alexandre Loukachenko, pas de véritable adversaire dans ce scrutin. En effet, depuis sa réélection largement contestée en 2020, l'opposition, qui dénonçait un scrutin entaché de fraude, a subi une violente répression forçant cette dernière à fuir le pays. Et puis direction la France pour cette fin d'édition, fin d'une semaine américaine de basket hier soir à Paris avec le second match délocalisé de la NBA dans le cadre d'une traditionnelle opération marketing quasi annuelle. Largement battu jeudi, les Indiana Pacers ont pris leur revanche sur les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Le jeune prodige s'est tout de même dit très heureux d'avoir pu jouer à la maison. Mais il n'y avait pas que des Français dans la salle. Victor Missistrano y était et il y avait beaucoup de monde et beaucoup de nationalités.
Des spectateurs originaires de 53 pays, c'est un record pour la NBA. Erin se prend en photo avec sa famille devant le logo de la Ligue américaine qu'elle connaît bien, puisqu'elle vit à San Antonio.
On ne rate aucun match à domicile, mais nous tenions à supporter nos Spurs ici à Paris et voir Wemby jouer dans son pays. On est là pour la semaine, donc l'expérience consiste aussi à découvrir la France.
Lui est venu de Finlande en compagnie de son épouse. Caro a dépensé 400 euros par ticket.
Ça fait 30 ans que je suis la NBA, c'est mon loisir principal. Je n'ai pas assisté à un match depuis 15 ans. L'année dernière, j'ai complètement échoué, mais cette année, j'ai réussi à acheter un billet et j'en suis très heureux. Je m'attends à un grand spectacle.
Assurer le show, c'est le travail de Vincent Royer, le maître de cérémonie de la soirée, habituellement speaker de l'équipe de France.
On est samedi soir, les répétitions ont commencé lundi. Ça change tout, la NBA, c'est un autre monde. C'est rigueur, professionnalisme et un petit peu de fun quand même.
C'est quoi pour vous une bonne soirée, un bon match?
Une soirée réussie, c'est quand le match a été chaud jusqu'à la fin, que le public nous ait suivi, qu'à la fin, le public reparte avec le sourire et en se disant bah, quand est-ce que la NBA reviendra en France.
Ce sera peut-être pour l'an prochain. En revanche, pour le scénario du match, c'est donc raté. Lourde défaite des Spurs de Victor Wembanyama. Le Français repart aux États-Unis avec une grosse valise, mais les batteries rechargées.
Victor, Missy Strano pour cette fin d'édition.